Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, ravie de vous accueillir pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. La France surveille toujours avec inquiétude la progression des variants du virus. Sommes-nous en sursis? Le pari de l'exécutif d'éviter un reconfinement général pourra-t-il tenir? Les projections sur les hospitalisations pour le mois de mars sont alarmistes. Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris, viendra nous éclairer. Il sera mon invité à partir de 18h20. Dans ce contexte, l'idée d'un passeport vaccinal fait de plus en plus son chemin. On y reviendra avec les grandes voix à partir de 18h30 et on reviendra aussi bien sûr sur ce vote des députés, sur le projet de loi séparatisme. Après 15 jours de débats au cours desquels la majorité est restée soudée et l'opposition divisée. Et puis entre 19h et 20h, c'est le club des idées d'Europe Soir et on prendra de la hauteur ce soir. Direction la montagne, une montagne contrainte de se réinventer. La crise que nous vivons sera sans doute le déclencheur d'un mouvement entamé il y a déjà quelques années. À quoi ressemblera la montagne du futur dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Rendez-vous à partir de 19h20. Mais avant cela, l'info avec le journal présenté par Christophe Lamarre. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle.
Il est 18h, merci d'écouter Europe 1.
J'aurais bien aimé pouvoir aller au stade, mais oui, c'est vrai que c'est assez particulier, il n'y a pas de Français, c'est pas évident, on sent un peu seul, mais bon, on va essayer de leur montrer qu'on est quand même là et qu'on a fait l'effort de venir les voir.
Un peu seul, mais ils sont là. Les supporters parisiens attendent le choc de ces huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions PSG-Barcelone ce soir à 21h.
Et forcément, nous serons en Espagne dès le début de ce journal. Le PSG version 2021 va passer son premier test grandeur nature face aux Barcelonais.
La France est bien en sursis face à l'épidémie. C'est la conviction des chercheurs de l'INSERM qui ont étudié le variant anglais de près.
L'Institut retient trois scénarios et une certitude, il prévoit un rebond épidémique plus ou moins haut dès le mois de mars.
Dans ce journal, le témoignage depuis Rangoon d'une Birmane qui vit dans la crainte face à la répression menée par la junte.
Il monte. Le Bitcoin, la crypto-monnaie, a franchi pour la première fois la barre des 50 000 dollars sur le marché. Emmanuel Dutheil nous dira pourquoi.
Trois gendarmes mis en examen dans l'Isère, ils avaient laissé boire un de leurs collègues avant de prendre le volant. Il a provoqué un accident mortel.
Un Français champion du monde, Mathieu Febvre, décroche la médaille d'or en ski parallèle.
Et puis la Bourse de Paris termine à l'équilibre, à 5 786 points.
Bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Isabelle.
Le soleil s'impose demain après-midi, bonne nouvelle.
Oui, après une matinée plutôt nuageuse, le soleil domine sur une grande partie du pays dans un ciel complètement dégagé, avec toujours des températures très douces. Demain, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Comment se retrouvent les Parisiens affrontent Barcelone chez lui ce soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.
Du sport et du beau spectacle, on l'espère. En pleine pandémie, ça ne peut jamais faire de mal. À Barcelone, la fête ne sera pas dans les tribunes, hein, vous le savez, puisque le match se joue à huis clos, ni dans les rues, ou alors jusqu'à 22h, mais pas au-delà, couvre-feu oblige. Bonsoir Henri de Laguérie, vous êtes notre correspondant permanent en Espagne.
Bonsoir Isabelle.
C'est un match, Henri, qui va se disputer dans une drôle d'ambiance hein, quand même. Hein.
Oui, effectivement, même si je peux vous assurer que la rivalité entre les deux clubs n'a pas disparu. Et il y a de l'agitation au pied de l'hôtel des joueurs du PSG, là où je me trouve, situé en bord de mer. Une centaine de supporters du Barça sont venus huer Mbappé, ses coéquipiers qui partiront dans quelques instants vers le stade. Au milieu de la foule, j'ai tout de même croisé une poignée de fans du PSG, des Français qui habitent à Barcelone comme Steven.
J'aurais bien aimé pouvoir aller au stade, en profiter. Pour le coup, c'est pas possible. Du coup, on fait ce qu'on peut. On essaie d'aller les voir un peu là où on peut les voir. Mais oui, c'est vrai que c'est assez particulier. Il n'y a pas de Français. C'est pas évident. On se sent un peu seul. Mais bon, on va essayer de leur montrer qu'on est quand même là et qu'on a fait l'effort de venir les voir.
Voilà, ce soir, il faudra voir le match à la maison. Les restaurants et les bars sont fermés en soirée. Le Camp Nou et ses près de 100 000 spectateurs sera vide. Et c'est un problème pour Joan, supporter catalan.
Oui, sans public, le Barça perd un avantage. Le Camp Nou est un stade impressionnant. Dans un match, quand il est rempli, ça fait vraiment la différence. Ce soir, c'est une chance pour le PSG.
Et c'est vrai que sans ce Camp Nou rempli qui poussait derrière son équipe, Messi, Piqué, Alba et les autres, elle n'aurait sans doute pas pu réaliser cette fameuse remontada en 2017.
Henri de Laguérie, correspondant d'Europe 1 en Espagne. Alors la question, Isabelle, la question que tout le monde se pose, c'est de savoir si Paris a ses chances.
En foot, on a toujours ses chances. Mais c'est vrai qu'entre les Parisiens et les Barcelonais, ce sont toujours des matchs un peu particuliers. Alors on ne va pas refaire l'histoire de la remontada. Mais Julien Froment, honnêtement, est-ce que le PSG a des arguments pour vraiment faire douter Barcelone ce soir?
Oui, clairement, le Paris Saint-Germain a les moyens, même si deux joueurs clés manquent à l'appel ce soir. Neymar, bien sûr, et André Di Maria. Le Paris Saint-Germain Encore du monde en magasin avec tout d'abord en attaque Kylian Mbappé. Le Français a une belle opportunité de prouver qu'il peut porter l'équipe sur ses épaules. C'est le moment pour lui de prendre ses responsabilités. Et surtout, le PSG alignera ce soir sa défense type avec la Sainte Trinité Keylor Navas dans les buts. Le duo en défense centrale Marquinhos-Presnel-Kimpembe. Ce ne sera pas de trop pour contenir un petit Argentin de 34 ans. Sextuple ballon d'or, je parle bien sûr de Lionel Messi, qui en plus des défenseurs aura aussi sur le dos son compatriote Leandro Paredes. On l'écoute.
Clairement, avoir Messi dans le camp d'en face, c'est une grosse responsabilité. Ça va nous obliger à bien nous replier défensivement, mais on va faire du mieux possible contre lui parce qu'il va tenter de nous mettre en difficulté.
Si on attaque le Barça à de sérieux arguments avec Messi et les deux Français, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, derrière en revanche en défense, c'est beaucoup plus friable. Elle est peut-être là la clé pour le Paris Saint-Germain, résister aux assauts catalans et donner le coup de grâce quand il en aura l'occasion.
Et on suivra ça avec vous notamment, Julien Froment, merci, en direct de Barcelone. On vous retrouvera effectivement ce soir avec toute l'équipe d'Europe 1 dès 20h pour une soirée exceptionnelle, soirée spéciale Ligue des Champions animée par Lionel Rosso et ce sera jusqu'à 23h30. Il est 18h04 pour l'instant. Emmanuel Macron parlait d'une guerre contre le virus. C'est de plus en plus, en tout cas, une drôle de guerre, hein, Christophe.
L'épidémie est là, mais la troisième vague, tant redoutée, n'a pas encore déferlé. À vrai dire, on n'y comprend plus vraiment grand-chose puisque les principaux indicateurs sont en baisse depuis une semaine. Et pourtant, Mathieu Charrier, une nouvelle étude de l'INSERM prévoit le pire pour mars.
Eh oui, l'INSERM qui estime que le variant anglais pourrait devenir dominant en France entre la fin février et la mi-mars, c'est-à-dire que le couvre-feu avancé à 18h ne suffirait plus à freiner sa propagation. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'une fois que ce variant aura rapidement et majoritairement remplacé le virus d'origine, eh bien, toujours selon l'INSERM, le nombre d'admissions à l'hôpital va flamber. Écoutez bien les chiffres, on est aujourd'hui à moins de 10 000 admissions hebdomadaires à l'hôpital. Ce sera 15 000 la semaine du 7 mars, puis 25 000 dans la semaine du 22 mars, c'est-à-dire dans un peu plus d'un mois. Ce qui veut dire qu'on sera au-dessus des 20 000 admissions hebdomadaires à l'hôpital du mois de novembre dernier qui avait engendré le deuxième confinement. Alors c'est vrai que ces projections vont à l'encontre de ce que l'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire à tous les indicateurs qui sont en recul. Pourtant, l'INSERM précise que les mesures actuelles prises par le gouvernement ne suffiront pas à limiter la transmission du variant britannique et que la couverture vaccinale à fin mars ne sera pas non plus suffisante pour atténuer les contaminations. Il faut attendre au moins fin avril, selon l'INSERM, pour voir les premiers effets de cette vaccination. Autre élément inquiétant, cette étude ne prend pas en compte les variants sud-africains et brésiliens qui pourraient encore accentuer ces chiffres.
Merci Mathieu Charrier, chef du service Société d'Europe 1. Et on reviendra sur ces chiffres très intéressants, un peu inquiétants, avec mon invité d'ici quelques minutes, Gilles Pialoux, le chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris.
La campagne de vaccination qui suit son cours, plus de 2 millions de personnes ont reçu une première injection. Près de 720 000 ont bénéficié des deux doses réglementaires.
Et les demandes de rendez-vous ne faiblissent pas, bien au contraire. La plateforme Doctolib observe même une accélération ces derniers jours. 154 000 créneaux ont été réservés pour la seule journée d'hier.
Et on apprend que Johnson & Johnson a fait sa demande de mise sur le marché européen de son vaccin anti-Covid auprès du régulateur. Décision attendue en mars. La crise sanitaire qui se double d'une crise économique, le gouvernement prolonge le dispositif du chômage partiel jusqu'à fin mars.
Dire aucun reste à charge pour les entreprises et les secteurs frappés par la crise, comme le tourisme ou encore l'hôtellerie-restauration. Pour les autres secteurs, le taux de 15% est maintenu, lui aussi, jusqu'à fin mars.
Le monde réel est en crise, les marchés financiers, eux, sont au paradis. Artificiel, diront les esprits critiques, puisque la planche à billets des banques centrales tourne à plein régime. Il n'empêche, le bitcoin va de record en record.
On dit que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. En matière d'économie, c'est à se demander si le bitcoin ne va pas faire mentir cet adage. Le prix de cette monnaie virtuelle vient en effet de passer la barre des 50 000 dollars. Et cela représente une progression de plus de 70% depuis le début de l'année. On explique comment cet envol, Emmanuel Dutheil.
Eh bien, la première raison, c'est la pandémie. Les investisseurs cherchent depuis des mois des placements différents dans le but de diversifier leur portefeuille, c'est-à-dire autre chose que les classiques actions. Et du coup, sont arrivés sur ce marché du Bitcoin des investisseurs renommés, ce qui a crédibilisé cette monnaie virtuelle selon l'économiste Christopher Dembick.
On a eu ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Concrètement, ce sont des très grandes entreprises, typiquement des fonds de pension, qui ont aussi décidé d'investir dans les crypto-monnaies, se disant « ça peut être un investissement qui est intéressant parce qu'effectivement, on a eu une hausse qui a été phénoménale sur les derniers mois ».
Et parmi ces grands noms, on peut citer des banques ou des entreprises. Tiens, comme Tesla, le fabricant de voitures électriques dirigé par le fantasque Elon Musk, a annoncé la semaine dernière dernière avoir investi 1,5 milliard de dollars de sa trésorerie en bitcoin. Et pourtant, le bitcoin, dont personne ne connaît l'origine, reste un placement dangereux, c'est très volatile notamment. Mais comme me disait un économiste, beaucoup, en voyant la hausse du moment, ont peur tout simplement de rater le train et préfèrent donc monter dedans, même si le billet est à un prix exorbitant et que personne ne connaît la gare d'arrivée.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1, s'est envolé des cours qui devraient satisfaire Bercy. La taxe sur les transactions financières a rapporté plus d'1,7 milliard d'euros à l'État l'année dernière. Un record depuis sa création en 2012, affirme le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt.
Europe 1, 18h09, et en Isère, trois gendarmes ont donc été mis en examen pour avoir laissé leur collègue ivre prendre le volant et provoquer un accident mortel.
C'était il y a 2 ans. Le gendarme avait 2,5 grammes d'alcool dans le sang lorsqu'il a pris le volant. Il a percuté la voiture d'un couple de retraités. Les septuagénaires ont été tués sur le coup. Leur famille a décidé de poursuivre les trois gendarmes qu'il avait laissé prendre le volant alors qu'ils n'étaient pas en état de conduire. Ils ont donc été mis en examen. Une étape importante pour l'avocat des familles du couple de retraités, maître Hervé Gerbi.
Dans ce dossier, nous avons l'exemple type de ce qui pourrait nous arriver aux uns et aux autres, c'est-à-dire finalement d'être en présence de quelqu'un qui est très fortement alcoolisé. Là, on parlait de 2,54 grammes d'alcool quand même. Et puis, on le laisse partir au volant d'un véhicule. On en fait un instrument de mort. Et c'est face à cette responsabilité collective que les parties civiles veulent aujourd'hui envoyer ce message. Attention, ne laissons pas partir quelqu'un qui est alcoolisé au volant.
D'autant plus quand on est gendarme et qu'il est gendarme lui-même. On a une double responsabilité, selon vous ?
Écoutez, la mission première des gendarmes, c'est de faire respecter la loi. Donc, bien évidemment que ce dossier est très emblématique. Au-delà de la responsabilité morale, ils ont une responsabilité pénale. Ils ont une responsabilité collective pour avoir fermé les yeux sur ce qui allait se passer, d'autant plus compte tenu de leur qualité de gendarme.
Maître Hervé Gerbi, interrogé par Guillaume Bié.
Le sommet du G5 Sahel au Tchad, Emmanuel Macron confirme qu'il ne veut pas réduire pour l'instant l'engagement français.
Ce serait une erreur, dit-il. Le chef de l'État ne veut pas affaiblir le dispositif de l'opération Barkhane alors qu'il est sur le point de réaliser ses objectifs. Le président n'écarte pas une réduction du nombre de soldats français à terme, mais ce sera au-delà de l'été et en accord avec nos partenaires, dit-il.
En Birmanie, la contestation faiblit mais ne cède pas face à la pression constante qu'exerce la junte au pouvoir.
Les manifestations sont quotidiennes. Elle rassemble peut-être un peu moins de monde si l'on en croit les récits et les témoignages, mais la population reste déterminée. Elle refuse le coup d'État militaire.
Vous savez que l'armée n'a pas hésité à tirer sur les manifestants le week-end dernier. L'ONU condamne ce putsch et les coupures d'Internet qui sapent, selon elle, les principes démocratiques fondamentaux. Mathieu Bock vient de joindre une Birmane qui se trouve à Rangoon, la capitale économique. Elle s'appelle Tan Tarwin. C'est une guide francophone et elle raconte comment la peur est aujourd'hui devenue le quotidien des habitants.
Aujourd'hui, je ne sors pas. Les gens du quartier, on doit se protéger nous-mêmes. Là, maintenant, on ne peut plus faire confiance. Les polices, personne. Chaque quartier, chaque rue, on a mis des barrières en bambou. Des barrières, mais c'est rigolo, mais c'est en bambou. Les rues de Rangoon, il y a les chars. On sait très bien que pour nous faire peur. Insupportable. Vraiment. S'il vous plaît, de bien exprimer ces choses, vraiment, ça m'énerve beaucoup. Nous, on a peur de deux côtés. On a peur d'être tués. Mais de l'autre côté, on a peur de rester avec eux encore. Non, on ne veut plus parce qu'il nous a tout cassé les droits d'homme. Si on a peur, on doit mourir plusieurs fois. Si on n'a pas peur, on ne meurt qu'une seule fois. Et donc moi, je n'ai pas peur.
Voilà, Tan Tarwin, courageuse, guide francophone à Rangoon, jointe pour Europe 1 par Mathieu Bock. Puis on a commencé par le sport, on va terminer avec lui. Ça portera peut-être chance aux Parisiens, Christophe. En tout cas, un Français est champion du monde ce soir, champion du monde de ski alpin.
Oui, c'est une première dans l'histoire d'ailleurs. Mathieu Fèvre est le premier à inscrire son nom en haut du palmarès du ski parallèle. Corinne Boulou, ben voilà un homme qui cherchait la consécration depuis longtemps et il l'a donc trouvé cet après-midi.
Et dire qu'il y a encore quelques jours, cette nouvelle discipline qui oppose deux skieurs sur deux tracés parallèles ne l'enthousiasmait pas plus que cela. Mais c'est bien grâce à cette course qu'à 29 ans, Mathieu Fèvre ouvre son palmarès individuel en championnat du monde. L'ex numéro 2 mondial en 2017 et en géant, plus en difficulté depuis, était en recherche de sensations. Elles sont revenues au bon moment pour s'imposer face au Croate Zubcic et faire résonner la Marseillaise dans le ciel de Cortina. Pas de quoi pour autant rendre le skieur d'Isola euphorique, puisqu'encore une fois, il critiquait cette discipline qui le fait roi ce soir, il y a quelques jours.
Ça compte dans l'absolu. Voilà, j'ai pas forcément toujours été d'accord avec cette discipline. Donc voilà, effectivement, je suis le premier champion du monde de cette discipline. Mais je pense que voilà, aujourd'hui, c'était vraiment dans l'état d'esprit et dans la manière que je suis satisfait. Et puis voilà, il y a des jours où on se dit aujourd'hui, j'ai le goût de la médaille dans la bouche. Donc aujourd'hui, c'était un petit peu comme ça que ça s'est passé.
Un propos recueilli pour Europe 1 par Romain Libardi. Cette médaille d'or permet pour une fois à Mathieu Fèvre de sortir aussi de l'ombre d'Alexis Pinturo, hein, quelques mois plus âgé que lui. De quoi lui donner confiance avant d'aborder le géant vendredi où les deux Français feront partie des favoris pour un nouveau podium.
Corinne Boulou du service des sports d'Europe 1 tient un mot de rugby. Fabien Galthié est positif au Covid. Le sélectionneur du 15 de France est à l'isolement à Marcoussis comme tout le reste de l'équipe et du staff. Bon, ça laisse quand même de la marge hein, puisque je vous rappelle que le prochain match des Bleus en tournée destination, ce sera le... Bah c'est, vous suivez, ça bah fait non, plaisir, c'est
j'attends, vous me disiez. Ah bah voilà, normal, donc façon, il a le temps de se remettre il d'ici temps, là, bah oui. Fabien Galthié. Merci Christophe Lamarre, que l'on retrouve à 18h30 et à 19h pour un nouveau journal. La météo, Anissa, le ciel se dégrade au fil des heures.
Non, il se dégage.
Se dégage. Mais oui, tout à l'heure, vous nous aviez annoncé du soleil. J'ai rajouté un R, pardon.
La journée va effectivement commencer sous un ciel assez couvert demain matin avec des Ardennes jusqu'à la Lorraine, pas mal de brouillard, soyez prudents. Des averses aussi sur les côtes de la Manche. Il n'y a finalement que sur les Pyrénées, le Massif central, la vallée du Rhône, les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse que le soleil sera présent. Au bord de la Méditerranée, attention, pas mal d'entrées maritimes comme aujourd'hui. Et puis au fil des heures, vous le disiez, Isabelle, le ciel va se dégager.
Dégager.
Au sud de la Loire, le soleil brille dans un ciel complètement lumineux. Vraiment, pour toutes les régions au sud de la Loire, demain, il n'y aura aucun nuage. Il va faire très beau. Au nord de la Loire, sur les Ardennes, la Champagne et la Lorraine, nous avons toujours des brouillards qui restent tenaces. Et puis en Bretagne et en Normandie, là, nous avons... quelques petits nuages qui apporteront quelques petites gouttes. C'est une petite perturbation qui touche les côtes de la Manche. En région parisienne, nous aurons un ciel qui va alterner entre nuages et éclaircies. Côté température, comptez 3 à 11 degrés demain matin, ça reste doux. Stationnaire l'après-midi avec 10 à 14 sur la moitié nord et 13 à 21 degrés dans le sud.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo. C'est promis, cette fois-ci, je suivrai. À tout à l'heure.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, la France face à l'épidémie. Les médecins redoutent la progression des variants qui pourraient venir saturer les hôpitaux. L'accélération de la campagne de vaccination sera-t-elle suffisante pour les contrer? Je reçois le professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Il est 18h18, merci à vous d'écouter Europe 1, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir et je reçois ce soir le professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce soir, professeur Pialoux. On a bien besoin de votre éclairage parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas tout. On a des chiffres, mais on a besoin de vous pour que vous nous aidiez à les analyser. Alors, pour résumer, on voit quand même l'épidémie se stabiliser et même régresser. 10% de cas en moins sur une semaine avec une moyenne de 18 000 cas jour. Un R0 à 0,97. Un taux de positivité des tests en baisse à 5,8%. Et dans le même temps, il y a aussi ces variants qui inquiètent beaucoup. On va y revenir. D'abord, comment expliquez-vous cette baisse? Est-ce que c'est le couvre-feu à 18h qui montre son efficacité, Gilles Pialoux?
Bon, c'est vrai qu'on n'explique pas tout, notamment parce qu'on s'attendait, et on l'a écrit et dit, qu'on s'attendait quand même à un choc, là, mi-février. Il faut quand même rappeler, malheureusement, qu'on est quand même dans un positionnement à un très haut plateau, avec quand même un taux de réanimation... de remplissage de réanimation qui est au-delà de 60%, autour de 65%. Donc comme vous le dites, c'est une légère décrue sur un plateau très élevé qui a eu une phase ascensionnelle. Donc l'explication, effectivement, elle probablement que ce couvre-feu qui est suivi, parce que c'est pas seulement la mesure 18 heures, c'est que vous avez vu que c'est une mesure coercitive. Et on a très bien vu au moment où était annoncé, je dirais, le resserrement un peu de l'étau sur les gens qui ne l'appliquaient pas, qu'il devenait très clairement appliqué. Donc c'est probablement un effet et sur lequel les politiques jouent, entre guillemets, pour éviter un reconfinement que nous, sur le plan sanitaire, on pensait inexorable. Alors l'autre question, et qui est une énigme, mais ça on peut en parler, c'est effectivement les variants,
oui.
Et surtout le variant anglais qui est en train de prendre place, et il sera probablement, alors lui là je vois pas comment ça peut s'arrêter, il sera majoritaire dans les semaines qui viennent.
C'est ça, on dit qu'il sera majoritaire début mars en France.
Oui, on a fait le point, nous, sur notre gros groupe hospitalier, et on est probablement autour de beaucoup plus qu'en national, parce que vous avez vu qu'il y a des disparités. L'enquête Flash là, qui a été faite par Santé publique France montre qu'il y a des disparités assez étonnantes. Donc, par exemple, il y a un taux élevé en Bretagne, alors que le virus circule pas en proportion, hein, alors que le virus circule pas énormément. Mais c'est vrai qu'il y a des régions comme les Hauts-de-France, le Grand Est, qui sont tout à fait touchées par ces variants. Je parle surtout du variant anglais, et on est encore plus préoccupés pour les raisons que vous avez annoncées dans votre sujet, par rapport à la réponse vaccinale pour ces variants sud-africains ou brésiliens.
Mais alors pourquoi ne
qui
voit-on
sont très
pas,
minoritaires.
Qui sont minoritaires, oui, il faut le rappeler. Pourquoi ne voit-on pas déjà des explosions de contamination alors que ce variant augmente de 50% par semaine? C'est énorme. Et pour rappel, il est, je crois, entre 40 et 60% plus contagieux. Hein.
Alors, il y a plusieurs hypothèses. L'une des hypothèses, c'est que les Français entendent les messages et que ce variant a, disons, augmenté un peu le niveau de mesures barrières. C'est la première hypothèse. La deuxième, qui a été montrée par les Anglais et qui donne... aujourd'hui, c'est mon jour d'optimisme, mais les Anglais ont montré quand même que, globalement, un confinement, certes, beaucoup plus serré que ce qu'on a actuellement, avait un impact sur la circulation de virus. Et la troisième hypothèse, c'est que ces chiffres de 50-70%, il y a sûrement une augmentation de la transmissibilité, peut-être qu'ils ont été vus un peu trop à la hausse. C'est les trois hypothèses. Et la quatrième hypothèse, c'est que c'est juste un effet temps. Et parce que quand on a vu comment ce qui s'est passé en Afrique du Sud et la vitesse avec laquelle ils ont été envahis, comme dans le sud de l'Angleterre, on est extrêmement prudent et humble sur ces variants.
Alors quand on prend l'exemple de la Moselle, par exemple, où le variant sud-africain, plus contagieux de 30 à 60% que la souche classique, représente 40% des dépistages. Et pourtant, en Moselle, eh bien pourtant, le taux de positivité des tests n'explose pas, il est de 7%. Comment on explique ça?
Parce que la politique de dépistage en France, elle dépend précisément plus du politique que des individus, c'est-à-dire la disponibilité des tests. Il faut expliquer aux Français que on sait maintenant exactement faire le tri. Et d'ailleurs, même pour ce qui est du variant anglais, on n'a pas besoin de faire tout le génome. On a des tests PCR qui sont spécifiques et qui permettent très facilement, sur un seul prélèvement, toujours au fond du nez, hein, de savoir quel est le variant. Donc là, c'est pas un problème technique. C'est un problème d'offre de dépistage. Et évidemment, ça fait partie des propositions qu'on a à faire si on doit vivre avec, parce que c'est le sujet actuellement, vivre avec versus se débarrasser comme l'ont fait certains pays, c'est-à-dire Covid zéro. Et si on vit avec, il faut augmenter complètement la puissance de feu du dépistage et dans son sillage de l'isolement. Je crois que c'est un projet qui a été souvent annoncé, mais qui n'est pas encore dans la pratique. Et il faut regretter que ce taux de dépistage n'augmente pas en France alors qu'on a des variants.
Donc il faut augmenter les dépistages. Est-ce que vous comprenez la volonté du gouvernement de ne pas prendre de mesures de restriction plus fortes en Moselle et à Dunkerque, notamment de ne pas fermer les écoles alors que les élus le souhaitaient et alors qu'on est à une semaine des vacances?
Je pense que c'est des décisions purement politiques. Comme vous le savez, il y a un débat sur... le poids du scientifique, notamment du conseil scientifique, qui a eu des positions quand même très claires sur l'utilisation et de cet outil qu'est le confinement. Mais quand on dit le confinement, ça, il y a plusieurs façons. Là, on est là précisément. Vous faites appel à une notion qu'on a évoquée très tôt, qui était le confinement soit en population, soit le confinement régional. Alors après, c'est une décision politique locale et vous avez bien vu que pour ce qui est de la Moselle, il y a des prises de position qui sont un peu différentes entre le pouvoir central, le pouvoir local et à l'intérieur du pouvoir local, les scientifiques, l'ARS, le préfet qui peuvent avoir des positions différentes. Moi, je ne sais pas quelle est la solution pour la Moselle, mais je ne peux pas imaginer que la problématique de la Moselle reste en Moselle.
Bon, on parlait dans le journal de 18h de cette nouvelle enquête de l'INSERM et de Santé publique France qui dit que si nous ne changeons rien dans les mesures de restriction, les admissions à l'hôpital passeraient d'environ 10 000 par semaine à près de 15 000 autour du 7 mars et puis à plus de 25 000 dans la dernière semaine de mars, c'est-à-dire davantage qu'au pic de la deuxième vague. En gros, tout ce qu'on voulait éviter.
Oui, c'est vrai qu'on a dit au début que les modélisations se trompaient, mais elles se sont trompées de moins en moins. Plus le temps passe, plus les modélisations sont proches de la réalité. Donc c'est à prendre effectivement avec attention et avec des moyens qui sont celui qu'on est en train de développer dans les hôpitaux. Hein. Vous avez vu qu'il y a des notes de la Direction Générale de la Santé. Nous, on a des notes à d'autres niveaux, de déprogrammation notamment, qui permet de récupérer du personnel pour équiper la réanimation. Parce que dans les chiffres que vous avez évoqués, il y a un chiffre qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est que ça ne baisse pas en réanimation. Alors là aussi, c'est peut-être un effet temps, mais on est toujours dans un solde, comme on dit, positif. C'est-à-dire qu'il y a plus d'entrées en réanimation, en tout cas en Île-de-France, que de sortie. Donc là aussi, on a une prudence, puisqu'on sait très bien que c'est par la réanimation que l'étranglement, que le syndrome qu'on avait vu dans l'Italie du Nord, et puis aussi un peu en Espagne pour la première vague, nous guette. Donc je crois qu'il y a un débat de société. Hein. On est sorti de la science. Hein. Est-ce qu'on est en train de passer tout doucement, sans qu'on nous le dise, à vivre avec? C'est-à-dire qu'on accepte qu'il y ait des décès, certes chez des personnes qui ont plus de 75 ans, mais c'est un vrai sujet. Je pense que, pour ma part, je pense que ça devrait être un débat au moins de citoyens ou de la représentation nationale, de savoir si, dans l'attente de l'effet vaccinal, oui, qui est très lent, on a une acceptation comme ça d'un taux d'hospitalisation important, d'un taux de patients en réanimation et des décès de personnes qui ont... contrairement à ce qui se dit par certains experts, encore des années à vivre. Et je pense qu'on est vraiment dans un débat de société.
Justement, à propos de la campagne vaccinale, vous l'évoquiez, l'INSERM dit que nous n'allons pas en voir les effets sur les courbes de contamination avant avril.
Oui, c'est ce qui a été dit aussi par les membres du Conseil scientifique. Oui, parce que il faut comprendre qu'on est dans certains. Alors même si on a une certaine réussite dans les EHPAD qui ont été priorisés par la Haute Autorité de Santé, alors que les soignants ne l'ont pas été, mais on est avec des chiffres de couverture vaccinale dans des populations où le virus circule et les soignants font partie. Ça a été montré notamment par l'étude de l'Institut Pasteur. C'est un facteur de risque d'être soignant parce que pas seulement d'ailleurs par le contact avec les malades, c'est aussi par les transports, la vie sociale qu'on peut avoir les différents soignants. Et quand on regarde la couverture vaccinale des professionnels de santé, on est autour de 27% en dehors des EHPAD et à 16% dans les EHPAD. Donc tout ça va mettre du temps. Et comme vous le savez, c'est la rencontre entre dans le meilleur des cas, entre une immunité qui a été induite par l'infection et celle de la vaccination. Et dès que ça couvrira au moins 60% d'une population, on commencera à en voir les effets. Et effectivement, je crois que c'est difficile de prévoir avant avril, voire mai, compte tenu de la lenteur du processus d'implémentation de la vaccination.
Bien, merci beaucoup Gilles Pialoux pour votre éclairage. Chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris, merci d'avoir été en direct avec nous ce soir sur Europe 1.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité et les grandes voix du mardi. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
18h30, l'heure du rappel des titres avec vous, Christophe Lamar.
Emmanuel Macron dit vouloir décapiter les groupes liés à Al-Qaïda. Le chef de l'État qui participe à distance au G5 Sahel ne réduira pas la présence militaire française au Sahel dans l'immédiat. Ce serait une erreur, ajoute le président, qui n'écarte pas l'idée d'une réduction du dispositif Barkhane, mais ce sera en temps voulu. 347 voix pour, 151 contre, 65 abstentions. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi contre le séparatisme en première lecture après deux semaines de débat. La crise sanitaire peut-elle ouvrir un conflit entre générations? Oui, répond l'enquête Odoxa publiée par Le Monde ce soir. 56% des Français disent redouter un choc avec une jeune génération sacrifiée pour protéger les plus âgés. 8 personnes sur 10 estiment que les 18-34 ans sont les grands perdants des mesures prises par le gouvernement. La Moselle dans l'attente et la crainte de la décision allemande qui envisage de fermer sa frontière commune avec le département pour éviter l'importation de cas variants sur son sol. Le sort des 50 000 transfrontaliers est au centre des discussions entre les autorités françaises et allemandes.
Merci Christophe Lamar. L'info revient avec vous à 19h avec un nouveau journal complet. Anissa, journée ensoleillée demain.
Oui, une belle journée après une matinée nuageuse avec dans le centre-est, la vallée du Rhône, l'Occitanie, la Côte d'Azur et la Corse. De nombreux brouillards demain matin. Au sud de la Loire, nous aurons donc un ciel complètement dégagé et un soleil qui va briller sur toutes les régions au sud de la Loire sans aucune exception. Au nord de la Loire et en particulier sur le nord-ouest de la Bretagne, jusqu'au Pays de la Loire et la Normandie, là nous avons une petite perturbation qui apporte des petites pluies et du vent sur les côtes. Les températures restent très douces demain matin avec 1 degré à Manosque, 4 à Nîmes et Besançon, 5 à Limoges, 7 à Paris et Lille.
et 10 à Brest dans l'après-midi. Nous aurons 8 à 19 degrés, 8 pour Langres, 11 à Paris et 19 à Carcassonne.
Merci Anissa, à tout à l'heure 19h pour un nouveau point météo complet. Et dans un instant, on ouvre votre débat des grandes voix sur Europe 1. A tout de suite. 18h33, merci à vous d'écouter Europe 1. On ouvre ce soir le débat des grandes voix du mardi avec à mes côtés Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef au magazine Challenge, le politologue Pascal Perrineau et Charles Villeneuve. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Merci
Bonsoir.
De m'accompagner ce soir. Alors après deux semaines de discussion, le projet de loi confortant les principes de la République a donc été adopté tout à l'heure en première lecture à l'Assemblée lors d'un vote solennel. Le texte arrivera au Sénat le 30 mars avant son adoption définitive d'ici l'été. Les Républicains ont voté contre, les Insoumis aussi, le PS, le PC, le Rassemblement National se sont abstenus. 563 votants, 347 pour, 151 contre. Alors on nous avait dit, les grandes voix, que ce texte explosif allait électriser le climat. Bon, finalement, ça s'est quand même globalement bien passé. Pas de psychodrame, hein, Guylaine Ottenheimer.
Non, mais c'était un peu le but de ce texte qui était fait de mettre à disposition des gouvernants une boîte à outils qui permettent de contenir la propagande islamiste sans empêcher la pratique d'un islam modéré. Mais bon, alors du coup, c'est vrai que dans la préparation du débat ou dans les premières semaines du débat, ça a un peu chauffé parce que finalement, il n'y avait pas d'emblème, il n'y avait pas de moment fort,
de
marqueur fort pour voir si on tombait du côté ouais on s'attaque vraiment à l'islam ou au contraire on est trop gentil. Alors maintenant toute la question c'est depuis des années on fait des textes pour avoir des très bonnes intentions mais après il va falloir avoir les moyens de contrôler toutes ces mosquées à qui elles appartiennent, qui les financent, éplucher les relevés de banque, enfin. Voilà, après, toute la question, c'est des moyens. Toute la boîte à outils est là.
C'est l'étape d'après. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de ces outils? En tout cas, la majorité, elle a su faire preuve d'une certaine unité hein, autour de ce texte, qui, on le rappelle, était quand même un texte à risque, hein, Pascal Perrineau, mais qui a permis au gouvernement de fracturer les oppositions.
Oui, de fracturer les oppositions, mais c'est vrai que pendant de nombreuses semaines, on s'est dit ça a fracturé jusqu'au cœur de la majorité, parce que ça a tangué tout de même dans la majorité. Mais c'est vrai que par le biais d'amendements, on a su, au cœur de la majorité, recréer, au fond, une unité de La République en marche, sachant que tout de même, l'aile gauche était un peu froissée par ce projet de loi qui avait un objectif tout de même politiquement. C'était de parler à la droite, aux électeurs de droite, et de contribuer à casser la droite. Mais c'est vrai que le trouble a été plus grand chez les oppositions que dans la majorité. On voit bien comment la gauche reste sur ces sujets encore extrêmement mal à l'aise, entre une gauche qui voit, comme Jean-Luc Mélenchon l'a dit, qui voit avant tout un projet de loi qui serait anti-islamiste et une gauche de tempérament plus républicain, avec des guillemets. Quant à la droite, elle a été un peu surprise de voir le président et le ministre de l'Intérieur se porter sur des thèmes qui sont d'habitude, j'allais dire, un peu sa propriété. Elle a été obligée de pratiquer la surenchère, en particulier sur la question du voile, pour finir par voter contre, hein, sans donner l'impression tout de même qu'elle se rapprochait excessivement du Rassemblement national, qui lui s'est abstenu. Donc on voit bien
Marine
que ce
Le Pen
type
également,
de
oui.
sujet, vous voyez, redistribue les cartes, crée le trouble, mais c'est aussi un signal en ce qui concerne la prochaine présidentielle. On s'aperçoit que ce type de question va être certainement au cœur du débat présidentiel, plus qu'on veut bien le croire.
Alors, on va y revenir. Je voudrais qu'on écoute d'abord ensemble Damien Abad, le président du groupe Les Républicains, qui a expliqué tout à l'heure pourquoi son groupe n'allait pas voter ce texte.
Avec ce texte, il y a beaucoup de manques, beaucoup de lacunes, beaucoup d'angles morts. La question migratoire, la question de la radicalisation dans nos écoles, dans nos prisons, dans nos universités. Il y a aussi beaucoup de faiblesses, il n'y a pas de délit de séparatisme. Donc très clairement, pour nous, le compte n'y est pas. Et ce que nous disons au gouvernement, revenez à l'esprit des Mureaux, revenez à ce que vous avez promis aux Français dans la lutte contre l'islamisme radical. Ici, on a surtout un texte d'affichage qui aura peu de conséquences dans la vie quotidienne des Français.
Charles Villeneuve, l'ambition d'aller draguer à droite, disait Pascal Perrineau, ça n'a pas fonctionné.
Moi, je ne suis pas d'abord d'accord avec ce que je viens d'entendre de la part de Damien Abad.
Oui.
D'abord, j'ai trouvé très intelligent le travail qui a été fait, si vous voulez, en commission et notamment la commission spéciale. Il y a 3 amendements qui ont été votés par La République En Marche et qui ont pour origine l'opposition, notamment l'opposition de droite, mais aussi l'opposition communiste. Il y a 2 amendements de Mme Genevard, qui est vice-présidente des Républicains, qui sont, à mon avis, constructifs. La première portée sur la maîtrise du français pour l'instruction en famille, et la deuxième sur la création d'un délit d'entrave à la fonction d'enseignant. Ça fait suite, d'ailleurs, à la décapitation de Samuel Paty. C'était intéressant, justement. Maintenant, il faut une volonté politique pour l'appliquer, bien évidemment. Et puis le troisième amendement, c'est celui de Marie-George Buffet sur la polygamie, sur le fait de délivrer de toute façon des passeports aux femmes, notamment de religion musulmane, qui sont vraiment des victimes répétitives de la polygamie.
Ce que là vous nous dites, c'est qu'en amont, le gouvernement a pris le temps d'écouter les oppositions.
Absolument. Et en 2 semaines, on nous avait annoncé que c'était un projet de loi de tous les dangers. Il a été moins tendu qu'attendu. Et ça, c'est évident. Mais surtout, là où je ne suis pas d'accord avec Damien Abad, c'est qu'en réalité, il fallait une réaction de l'État pour ceux qui ne veulent pas s'enfermer dans une identité islamiste trop forte, et notamment, et qui veulent s'en libérer. Et on ne peut pas faire un projet de loi de ce type, notamment en respectant la pratique de l'islam, comme le disait tout à l'heure Guylaine, sans tenir compte des centaines de milliers de Français musulmans qui ne veulent pas s'enfermer dans l'islamisme. Et il y en a beaucoup. Je les connais bien. Je suis né dans des pays arabes. J'ai été élevé avec la plupart des musulmans. Et je sais comment ils font. Au Liban, en Syrie, et aussi bien en Irak, en Iran aussi. Et beaucoup ne veulent pas, de toute façon, se laisser enfermer. Donc, cette loi tient compte de ça. Et quand on dit que c'est une loi où il n'y a pas de dispositif fort, je ne suis pas d'accord sur le traçage de l'argent. Alors là où je suis d'accord avec Guylaine, par rapport à la remarque qu'elle vient de faire, c'est qu'il faut non seulement la volonté politique, mais il faut des moyens. Et c'est vrai, notamment sur le traçage de l'argent et notamment sur la fermeture des mosquées, etc. Ce sera un moment fort de voir, de s'apercevoir si vraiment la volonté politique y est.
Bon, en tout cas, on a beaucoup évoqué ici même sur Europe 1 le fameux débat entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen. Finalement, la patronne du Rassemblement national s'est abstenue. Je voudrais qu'on écoute Sébastien Chenu, le député RN du Nord, qui est porte-parole du RN.
Ce texte passe complètement à côté de ses objectifs. Et puis, évidemment, comment voter un texte qui fait l'impasse sur les sujets notamment de l'immigration, qui ne veut pas faire le lien entre immigration et lutte contre l'islamisme. Il y a à l'intérieur quelques petites mesures. D'ailleurs, c'est plutôt un empilement de mesurettes qui nous semble aller dans le bon sens. Mais globalement, le texte n'est pas à la hauteur de l'enjeu.
Guylaine Ottenheimer, c'est déjà ce qu'avait laissé entendre Marine Le Pen lors du débat contre Gérald Darmanin.
Quand on entend ça, heureusement qu'on ne peut pas immigration égale islamisme. Enfin, on est chez les fous là quand même. Il faut juste arrêter de dire ça. Il y a un problème peut-être économique avec l'islam, il y a peut-être un problème culturel, mais enfin, je veux dire, arrêtons avec ces jeunes générations qui disent que tous les entrants sont des criminels en puissance, des islamistes en puissance, des trucideurs en puissance. Ça, c'est inaudible. Il y a un moment, il faut que les Français arrêtent de croire ça. Maintenant, je trouve que l'analyse qui a été faite là
sur Pascal Perrineau
sur les enjeux politiques et comment les oppositions ont eu du mal à se positionner, parce qu'il n'y a rien dans ce texte qui suscite une opposition. On va dire tout le monde est d'accord pour qu'on surveille un peu le financement des associations, etc. C'est un début de réponse. Maintenant, le problème, c'est que si on veut lutter contre l'islamisme, qui est une idéologie, on n'en lutte pas simplement en fermant des mosquées ou en coupant l'argent qui est venu de l'étranger. Ça évite sa diffusion, ça compresse un peu l'écosystème. Mais il y a une idéologie islamiste qui n'existe pas d'ailleurs qu'en France, qui est en train de se répandre dans le monde. Comment on y répond? C'est un travail de longue haleine, c'est un travail... il faut face à ça trouver un discours, et c'est peut-être ça qui manque aujourd'hui dans la classe politique, mais pas seulement chez les macronistes. J'ai pas entendu chez les républicains un discours sur, contre la radicalisation qui s'adresse aux jeunes et qui leur donne un autre avenir que la radicalisation pour ces jeunes des quartiers.
Mais je crois que ça va venir.
Charles Villeneuve.
Ça va venir parce que je retrouve un peu dans ce projet de loi la patte d'un excellent islamisant, hein, c'est-à-dire Bernard Rougier, qui lui non seulement parle parfaitement la langue, mais par-dessus le marché, je l'ai croisé souvent, ne serait-ce qu'au Liban et surtout à Gaza, où il était venu voir les extrémistes du Hamas, etc. etc. Et c'est un homme qui a quand même parfaitement étudié les 15 quartiers d'où sont issus les dizaines de djihadistes français qui ont rejoint la Syrie et l'Irak. Et il y a justement, comme vient de le dire Guylaine, une étude, si vous voulez, et le fait que lui, Coppel, etc., il y en a d'autres, évidemment, il n'est pas le seul universitaire. Et heureusement qu'on commence à écouter notamment l'école d'Orient, etc. Heureusement qu'on commence à les concerner. Mais ce qu'il y a de vrai, et la posture justement des Républicains ou d'un certain nombre de... C'est une posture, et comme le disait Pascal Perrineau, on est à 3 mois des régionales et on est à un peu plus d'un an des présidentielles.
De la présidentielle, oui.
Et c'est dans la perspective de ces élections, évidemment, que les postures sont prises par les oppositions.
Et on aura donc l'occasion d'en reparler, évidemment, lors des prochaines échéances électorales. On se retrouve dans un tout petit instant, les grandes voix. On va parler du passeport vaccinal. Bonne ou mauvaise idée ? À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mieux.
18h46, c'est la suite de notre débat des grandes voix du mardi sur Europe 1, toujours avec Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à Challenge, le politologue Pascal Perrineau et Charles Villeneuve. Et on poursuivait le débat en coulisses, hein, c'est normal, pendant la pub, ça se passe comme ça. Alors on va changer de sujet. Faut-il imposer un passeport vaccinal aux Français ? Certains y voient un moyen de revenir rapidement à la vie normale, d'autres dénoncent une atteinte aux libertés individuelles. Parmi les plus ardents défenseurs, en tout cas, de ce passeport vaccinal, le président du Modem, François Bayrou.
Quand j'ai recommandé une carte de vaccination ou un passeport vaccinal, je me suis fait insulter, traiter de tout sur les réseaux sociaux. Et je n'ai pas changé d'avis. Du moment qu'on vérifie l'efficacité du vaccin et l'innocuité du vaccin, alors c'est évidemment la clé pour réouvrir la société.
Le passeport vaccinal, c'est la clé pour retrouver une vie normale, les grandes voies. Pascal Perrineau.
C'est une des clés. C'est un moyen de réintroduire de la mobilité. Et vous voyez que même sans le passeport vaccinal, quand on regarde la courbe aujourd'hui des gens qui retrouvent ou qui, dans le premier confinement, dans le deuxième confinement, maintenant avec le couvre-feu, sont dans des stratégies de mobilité, vous apercevez que ça augmente à chaque depuis mars jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a une espèce d'envie irrépressible dans la société de retrouver tout de même un peu de marge de manœuvre, quel que soit le système de contraintes. D'autre part, le passeport vaccinal, mais j'allais dire ça existe. Moi, je me souviens, il y a quelques années, avoir été au Mali.
Le carnet jaune.
Ben voilà, oui, hein, voilà. Vous avez contre la fièvre jaune, voilà, ça existe. Vous ne
pouvez
pas rentrer
au Mali. Quand on va en
Guyane
aussi, hein,
ben bien
France,
sûr.
Ouais.
En Guyane, en effet, hein, pour les résidents et ceux qui vont visiter la Guyane. Bon, donc ça existe déjà.
Et les enfants,
manière.
Quand on les met. Alors, dans des lieux publics
collectifs
aussi.
Est-ce que c'est le moment aujourd'hui de le réintroduire ? Peut-être pas, parce que il faut bien voir qu'on est à un taux de vaccination extrêmement faible et que ça serait perçu. Si on le faisait, par exemple, demain,
comme une inégalité,
une inégalité foncière, le pouvoir de quelques-uns, et dans le climat anti-quelques-uns, anti-élite qu'on connaît, méfions-nous. Mais en revanche, quand il y aura un taux de vaccination de 50-60% et qu'il y aura simplement un moule d'irréductible qui ne veut pas se vacciner, le passeport vaccinal a tout son sens.
Et puis tant pis pour eux. Alors la France n'a pas encore tranché. Écoutez ce que disait le ministre de la Santé, Olivier Véran, il y a quelques semaines.
La question se posera nécessairement à un moment donné. Elle est justifiée par le fait que vous pouvez être contagieux, contaminant et vous-même contaminé. Et donc, c'est une mesure de protection qui est proportionnée.
Olivier Véran, il dit que la question se posera, mais que c'est encore trop tôt pour se la poser. Guylaine Ottenheimer, est-ce que finalement, il ne se range pas en disant ça dans le rang des réticents ?
Moi, je trouve surtout que sur cette histoire, on va encore prendre du retard. On a pris du retard sur les masques, on a pris du retard sur les tests, on a pris du retard sur les vaccins. Attendons de voir, soyons prudents, parce que les Français pourraient être rétifs. Alors peut-être que pour le démarrage, ce ne sera pas une autorisation vaccinale délivrée par l'État, mais on va avoir apparaître des passeports vaccinaux, par exemple. Vous voulez aller au Club Med? Ah, il faut être vacciné. Vous voulez prendre KLM? Ah, il faut être vacciné. Vous voulez aller voir ce concert? Ah, ben, il faut être vacciné. Alors, oui.
Mais ça serait possible, ça serait légal de le faire au cas par cas.
Il faut attendre qu'il y ait un peu plus de personnes vaccinées, parce que là, c'est vraiment trop tôt. Mais il est temps de préparer l'appli qui va fonctionner cette fois. Et voilà, parce qu'on prend du retard. Le Danemark, la Suède le prépare déjà pour juin. La Grèce a déjà passé des accords. Mais le Danemark et la Suède
a déjà une appli
sont en train de lancer une appli qui va marcher. Alors oui, il y aura de l'injustice parce que tout le monde ne sera pas vacciné. D'abord, il faudra qu'il y ait quand même des dérogations pour certains profils qui peuvent pas se faire saigner ou je ne sais pas. Mais il y aura des injustices. Oui, parce qu'il y aura des gens qui auront été vaccinés, d'autres qui n'auront pas pu, etc. Mais bon, c'est aussi très injuste d'enfermer tout le monde.
En tout cas, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle estime dans une interview donnée aux Échos que l'instauration de ce passeport vaccinal est prématurée tant que tous les citoyens n'ont pas eu la possibilité de se faire vacciner. Hein. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure.
Si tout le monde est vacciné, il n'y aura plus de passeport.
Mais il y a, de toute façon, nous avons le talent d'introduire un autre virus en France. Et Guylaine Ottenheimer vient de le souligner. J'appelle ça le virus Salomon. Vous voulez.
C'est Jérôme Salomon, ça va lui faire plaisir.
Au lieu de se
remuer
et d'y aller, et ben on attend. Or, je vous ferai remarquer, cher ami, que le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme considère que c'est le sésame pour de relancer le tourisme, que de la même manière, l'Organisation mondiale de la santé a mandaté un groupe d'experts pour créer les standards d'un tel document, et que si l'Italie et la Grèce, eux qui veulent ce passeport vaccinal, s'y mettent et ouvrent leurs portes aux Américains vaccinés et aux Chinois vaccinés, les 2 à 3 millions de Français qui vivent du tourisme directement ou indirectement vont se retrouver largués. Mmh. Et évidemment, on sera encore une fois en retard. Il faut se poser la question tout de suite.
Oui, tout de suite, il ne faut pas attendre.
Et puis moi, je veux vous dire, je suis pour le passeport vaccinal, ne serait-ce que pour aller au Parc des Princes bientôt, pour aller voir PSG contre le Barça, le match retour, ou la France le 28 février contre l'Écosse pour le tournoi destination.
Vous êtes optimiste, hein.
Je plaisante,
j'espère pour vous.
Je plaisante à peine.
Mais non, mais il va falloir commencer à re-rentrer dans la vraie vie. Et puis arrêtons de dire tout le monde pareil. Là, le vieux syndrome de Napoléon, tout le monde fait la même dictée à la même heure, comme ça tout le monde est égal. Ben, tout le monde n'est pas égal, c'est pas vrai. Et même quand vous faites du sport, vous rentrez dans un club, vous voulez faire du foot, du tennis, de la natation, vous fournissez un certificat médical.
Bon, ça pourrait marcher aussi avec un test PCR.
Non, parce que le test PCR, vous pouvez quand même développer la maladie alors que le test PCR ne l'a pas encore
détecté,
identifié, etc. Donc, c'est quand même beaucoup moins sûr. C'est sûr pour la journée, là, les 24 heures où vous l'avez fait, mais c'est tout. Donc, ce n'est pas valable très longtemps.
C'est vrai. Et qu'est-ce qu'on dit aux plus virulents, Pascal Perrino, aux opposants qui parlent d'un profilage des individus?
Oui, mais ça, on l'entend depuis le début, hein, cette question, en effet, d'un big brother sanitaire, politique ou politico-sanitaire qui tirerait les ficelles. Il y a un peu de pensée complotiste là-dedans. On sait qu'on est en France dans lequel, hélas, en dépit de notre rationalité légendaire, le complotisme se porte extrêmement bien, et particulièrement chez les jeunes. Hein, Et particulièrement en ce moment. Mais surtout, ce qui est important dans cette idée de passeport vaccinal, c'est de réintroduire de la mobilité dans une société qui est en train d'aller très mal du fait de l'immobilité forcée. Hein, à la fois physiquement, psychologiquement, les effets pervers de cette immobilité ou quasi-immobilité imposée sont redoutables. Moi, je le vois en tant que professeur vis-à-vis de mes étudiants. Les étudiants vont mal aujourd'hui. C'est une génération, en effet, de la mobilité spatiale, de la mobilité culturelle, de la mobilité sociale. Et là, véritablement, ça va faire bientôt un an que ça dure. Et là, il est urgent de desserrer dans les meilleures conditions, mais de desserrer le système de contraintes ou de montrer qu'à terme, dans un mois, deux mois, trois mois, on va desserrer et qu'on a préparé en amont le desserrement, qu'on n'improvise pas.
Le problème, c'est la bascule. Parce que on commence par vacciner les vieux. Voilà. C'est surtout les jeunes qui ont envie de sortir.
Oui, bien sûr.
Et donc, si on commence à dire, bon, bah, y a 25% de vaccinés, on ne va pas les laisser enfermer. Ces gens, ils sont vaccinés, ils ne craignent plus rien. Il y a un moment, il ne faut pas non plus être chez les fous. Mais si on fait sortir les vieux, ce n'est pas seulement forcément ceux qui ont vraiment envie dans les bars. Et les jeunes vont dire, bah, non, non, là, ça ne va plus. Mais cela dit, je pense que quand les vieux et ceux qui ont des comorbidités seront vaccinés, là, on pourra desserrer de toute façon le système parce que il n'y aura plus de risque d'encombrement dans les urgences. Et donc, à ce moment-là, bon, il y aura des gens qui auront le Covid, mais c'est beaucoup moins grave quand vous n'êtes pas obligé d'aller aux urgences et que les urgences sont saturées.
Alors, même Jean-Baptiste Lemoyne, notre secrétaire d'État au tourisme, oui, oui, oui. Il dit que ce passeport vaccinal poserait un problème éthique, Charles Villeneuve.
Non, parce que ce qu'il y a de vrai, c'est qu'on n'a pas encore l'assurance, si vous voulez, de la continuité, de la couverture de ce vaccin. Est-ce que vraiment il nous amène l'immunité ? Bon, en plus, c'est quand même un moyen de revenir à la vie d'avant, indéniablement. Mais c'est vrai que, comme on l'a dit ici sur ce plateau tout à l'heure, au début, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même un nombre de vaccinés assez important. Et je crois que le problème éthique, faut-il qu'il se pose, mais qu'il moi, je trouve qu'il faciliterait la vie pour aller prendre l'avion et puis aussi aller visiter ceux d'entre nous qui sont à l'hôpital et ou dans les EHPAD. Ce serait un passeport quand même assez réconfortant, je trouve. Alors, évidemment, on peut toujours trouver un problème d'éthique, bien sûr. Mais ça, pour trouver des débats d'éthique en France... Il n'y a pas de problème, il n'y a pas que la Direction générale de la Santé qui pourra nous fournir les thèmes.
On rappelle que pour mettre les enfants en collectivité, aujourd'hui, il faut que les parents fournissent la preuve qu'ils aient bien fait tous les vaccins nécessaires.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Merci à vous en tout cas, merci beaucoup les grandes voix du mardi. On se retrouve très vite dans un instant. Toute l'info avec le journal de 19h de Christophe Lamarre. À tout de suite.